Chapitre 3. Le vent rasait comme une hirondelle, le plateau durci par le froid. Gobert, sa canne en main, allait surprendre Mauzac, et cette tempête de fin d'automne le forçait, en gonflant son manteau, à courber le front. Mauzac commençait, avec ses propositions d'argent, à corrompre le pays, à surexciter dans les fermes, dans les hameaux, d'anciennes haines de parentés et de voisinage. Le château d'Ambialé pouvait, au milieu de cette lozère de rochers et de bois, redouter une fermentation des instincts de révolte et de rapine. Pourquoi ce Mauzac en voulait-il à ces bourgeois qui, après tout, l'avaient honnêtement désintéressé? Le vent apportait l'écho de quelques sonnailles de troupeaux qui descendaient vers le sud, aux plaines de Marvejols ou de Neussargues, vers le nord. Sur le versant de la Muette, à la lisière du bois, la cahute était close. Au toc-toc discret du visiteur, Mauzac ouvrit avec confiance. Et, voyant Gobert seul, il ricana. « Si vous avez poussé jusque chez moi, monsieur le châtelain, c'est que vous avez une bonne nouvelle à m'apprendre. Par ma foi, vous êtes superbement installé ici. Je vous félicite. » Gobert admirait le logis commode au milieu des champs. Le poêle, un tapis sur la table, une peau de renard sur le sol, une antique lampe de cuivre. « Me preniez-vous pour un sauvage, monsieur le châtelain ? Et, avec votre fusil, vous effrayez tout le monde !» S'asseyant sur une chaise de bois, Gobert ajouta « Parlons franc, vous essayez de fomenter contre moi tout ce pays. Pourquoi ? Ça ne regarde personne. Quel grief invoquez-vous pour justifier votre haine ? Que vous dois-je ? Votre argent, reprenez-le. Hors du château, je m'ennuie. J'y ai laissé mes rêves, mes pensées, ma raison d'être. Vous, personnellement, je ne vous déteste pas. Un autre bourgeois, à votre place, m'aurait dépossédé aussi. Je dois disparaître. Alors, résignez-vous, tout le monde s'en portera mieux. D'abord, vous avez un fusil et vous n'êtes pourvu d'aucun permis de chasse, je crois. Les gardes ne verbaliseront jamais contre moi, Mauzac. J'oserais pourtant vous condamner, insinua le magistrat. Vous, vous oseriez ? Vous datez, il est vrai, de cette révolution qui prétend renier le passé. Erreur, monsieur. La révolution a jeté dans un creuset toutes les classes de la société pour ne former qu'une seule France. Les monarchistes eux-mêmes le reconnaissent aujourd'hui. Pas moi. La révolution a fait mourir les provinces et c'est en elles que réside, par vivante parcelle, l'âme de notre patrie commune. La révolution a détruit les frontières matérielles des provinces, mais nous voudrions que chacune conservât le culte de ses trésors et de ses aïeux, afin que, de sa vie féconde et responsable, elle enrichit le patrimoine commun. Vous, vous allez dans le passé vous inspirer de la mort. La mort, croyez-vous qu'elle existe, la mort ? Ce que je voudrais exterminer, moi, c'est l'image de mes ancêtres que je rencontre partout sur ce plateau et dont les voix me parlent de remords. Dans cet homme qui, à l'évocation de l'indestructible passé, tremblait de colère, Gobert vit pour la première fois et sous une couleur tragique, une victime de la fatalité. Il le regarda passionnément, avec une pitié croissante, et dit « Pourquoi ne revenez-vous pas au château ? On vous y laisserait entièrement libre. »« Libre, libre !» Je crois, ajouta Gobert en faisant allusion au relèvement moral d'Hélène, que vous y subiriez une influence avantageuse. Au fait, nous pouvons essayer. En outre, ne devriez-vous pas, au lieu de vous abandonner aux rêveries dangereuses de la solitude, travailler un peu, occuper votre cœur et votre pensée? Tenez, Madame Gobert va entreprendre, sur le plateau des 13 vents, la construction d'une école. Pourquoi ne contribueriez-vous pas à tourner vos regards vers l'avenir ? Oui, oui, ce serait possible. Donc, au revoir. Cette fois, tenez vos promesses. Je vous attendrai au château. » Gobert ouvrit la porte. Le vallon désert, sous le ciel où des nuages jaunes roulaient en gerbe, porta au cœur des deux hommes un souffle de sa paix toujours égal. Mauzac, appuyé au cadre de la porte, écouta décroître, par le chemin, le pas régulier du sage qui avait pu, après avoir exhalé de la colère, s'attendrir sur son sort. Gobert, sans s'arrêter, rentra chez lui. Dans le vaste cabinet de travail, Hélène s'amusait à étudier les plans de restauration d'une aile du château. Cet ouvrage l'excitait, lui donnait une beauté de fièvre, les joues un peu creuses, son teint mat et chauffé. Ayant consenti à laisser son enfant chez Ursule pendant le jour, pour oublier ce sacrifice, elle dépensait de grands efforts. « Je suis content, » dit Gobert, qui raconta sa visite chez Mozac. « Oh, tu es si vite content! C'est lui, tu sais bien, qui nous inquiète le plus, peut-être !»« Ah, paysanne superstitieuse et ombrageuse, va ! Naguère, tu avais confiance en cet homme. À présent, tu te méfies de lui. » Après un silence, elle murmura « N'empêche que notre enfant ne m'aime guère. Il préfère Ursule. C'est Ursule qui l'a sauvé. Oh, Ursule qui l'a sauvé, ça devait être, voilà tout. Je n'aurais pas cru l'aimer autant, ce petit. Enfin, c'est peut-être lui qui me fera aimer la Lozère, puisqu'il y est si fort attaché. » Et dans un essor vers la lumière du plateau, elle se leva, grande, ses traits virils, accentués par la mélancolie. « Pour m'attacher à la Lozère, soupira-t-elle, il me faudrait peut-être un malheur. »« Un malheur ? Es-tu folle ?» Gobert saisit les mains brûlantes d'Hélène pour la défendre encore de cette folie du désespoir à laquelle il avait cru l'avoir soustraite à jamais. Elle souriait, très douce, admirant qu'au lieu de se fatiguer d'elle, il eût toujours la vertu de la plaindre et de la ranimer. « Allons, lui dit-il, calme-toi. Le devoir m'appelle à Saint-Chélie. Sois donc belle et joyeuse pour notre enfant. » Une fois seule, Hélène regarda longtemps le toit de la ferme qui, là-bas, par-dessus les rochers du jardin, émergeait un peu. Sous ce toit, parmi les pauvres, Jean-Marie jouait, oubliant sûrement sa mère. Afin de dissiper toute tristesse, elle reprit sur la large table ordonnée de Gobert les plans qui l'intéressaient, y apportant des modifications. Et le travail accompli, selon la coutume, le bienfait d'absorber ses sentiments et ses pensées, d'apaiser sa conscience. Le soir, au milieu des ténèbres que le vent agitait comme les vagues bourdonnantes de la mer, on vit le château sur son rocher resplendir. Car, pour le divertissement de Jean-Marie, on allumait beaucoup de lampes. Il rentra, un peu déguenillé, le rire aux lèvres. Son père, qui rentrait aussi, le porta glorieusement entre ses bras, là-haut, jusqu'au pied d'Hélène. Et ce fut l'effusion de chaque soir. Jean-Marie se réjouissait de changer de maison. Hélène était ravie de voir qu'il la suivait partout, touchée hardiment aux moindres choses. « Tu sais, mère, il fera beau demain. Nous pourrons aller nous promener. »« Puisque tu le dis, il fera beau. »« Tu m'habilleras. Florent aussi sera habillé. » « Laisse Florent. »« Pourquoi ? Maman aussi. Quand vous êtes toutes les deux ensemble, tu ne te fatigues pas. C'est maman qui me porte. Elle fait bien. » Le lendemain, en effet, le soleil avait chassé les nuages et le vent se taisait sur le plateau qui, dans la mélancolie de l'automne, semblait s'étendre davantage. Quelle joie de lumière dans l'espace frais ! On déjeuna de bonne heure. Bientôt, les enfants endimanchés jouaient devant le château par les allées sablées. En même temps, aux deux extrémités du jardin, Hélène et Ursule parurent, celle-là sur le pont-levis, en toilette de drap bleu, un léger manteau bordé de loutre au bras, celle-ci sur le seuil du sentier, près du torrent, un parapluie rouge à la main, deux jupes ballottantes au mollet, et sur sa tête blonde et rose, la coiffe du Languedoc, transparente, à ruban blanc et qui plaisait à la dame. Elles se saluèrent en échangeant quelques mots de politesse. Et l'on partit. Il y avait entre les deux femmes, malgré leur bon vouloir, une gêne invincible. Ursule, cependant, en son humilité, aurait donné beaucoup de son cœur pour que la dame l'estimât franchement. L'une et l'autre ne détachaient point leur regard de Jean-Marie. À qui appartenait-il ? Laquelle des deux aurait-il, lui, sacrifié à l'autre ? Il gambadait avec Florent, parfois sautait sur Ursule, puis sur Hélène. Et la gaieté du petit provoqua peu à peu chez les deux femmes une insouciance. Elles bavardèrent avec une douceur croissante. « Il était temps, madame, de relever ce coin du château. Trouverons-nous des ouvriers de la Lozère ? « On m'assure qu'ils ont peur de toucher à cette ruine depuis que la foudre est tombée sur son toit. »« Oui, madame, on en trouvera. Puisque le château est le premier à consentir des sacrifices, tout le monde vous suivra. » La côte tourne pour monter au 13 vents. Hélène, un jour de neige, l'avait gravi de son pied robuste et cette course de l'autre hiver lui semblait un rêve d'enfant, aujourd'hui qu'elle croyait à jamais tenir son salut. Trois chars descendaient, attelés de bœufs, que la lourde charge de sapins ébranchés faisait tressaillir à chaque pas. Enfin, le plateau régna, sec, caillouteux. Vers le Besson, il se hérissait de bosquets de sapins aux aigrettes lumineuses. La route, sans savoir pourquoi, effleure la lèvre du plateau sur le vallon d'Ambialé. Au milieu du trajet, la falaise rouge, effritée par le vent et par la pluie, menace de s'écrouler dans un trou d'enfer parmi des pierres et des broussailles où jamais les Michel, pas plus que leurs prédécesseurs, n'avaient osé frapper de la pioche. Presque au bout du plateau, avant que la route tombe en zigzag sur le ruisseau du Fournel qui vient ici baigner les prairies du Besson, une chapelle se dresse sur le bord du précipice, quatre murs ravagés, sa charpente cassée comme une barque après naufrage. Sur la marche du seuil, un vieux cheminot était assis. Étonné de voir les deux femmes s'arrêter, il se leva, pâteau, maugréant. « Qu'avez-vous ? » lui demanda Ursule. « On ne peut plus se reposer à son aise. Autrefois, ceci était à tout le monde. » Les deux petits, avec une appréhension de ce vieux, se serraient contre Ursule. Il s'assit à l'écart sur une pierre, puis, après réflexion, pour ne pas porter malheur, descendit vers les prairies du Besson. Hélène, sans bouger, le regarda jusqu'à ce qu'il eût disparu. N'avait-elle point aussi, comme ce cheminot, erré à l'abandon, seule, toujours inquiète, mais elle dans l'orgueil ? Si elle n'attachait pas son cœur à la terre par une œuvre vivante, ne serait-elle pas aussi un objet de crainte et d'aversion ? La porte de la chapelle, que des gravats entouraient, résista aux mains des deux femmes. Elles durent la brutaliser de toutes leurs forces. Elles entrèrent doucement, ainsi que les petits, très émus, qui ôtaient leurs chapeaux de feutre. Partout des décombres, de la poussière, des herbes odorantes où glissaient des insectes. L'autel se tenait encore en équilibre, quoique déchiré par la foudre. Sur un mur luisait à peine une fresque maladroite, adorable d'ingénuité. Et la lumière tamisée par en haut imposait à la ruine une beauté vénérable, la poésie des choses qu'imprègne, malgré la déchéance de leur forme, une âme immortelle. Cependant, les enfants s'étaient échappés de cette masure triste qui ne disait rien à leur âme. Ils se reposèrent, bien sages, sur des bornes presque enterrées dans l'humus des oranges, et les deux femmes les retrouvèrent en souriant. L'on repartit. Le pavé de la route, à cause de son mica, étincelait au soleil. Ses clartés aveuglantes amusaient les enfants qui, à leur insu, s'approchaient ensemble du bord de la falaise rouge. Ils s'arrêtèrent un moment pour se pencher, regarder au fond de l'abîme les broussailles mystérieuses. Hélène, alors, relevant la tête, vit le danger qu'ils couraient et, sans pouvoir se contenir, les rappela éperdument. Mais son cri d'alarme propagea l'épouvante. Florent, en se reculant, comme Jean-Marie, avec frayeur, perdit l'équilibre, roula le long de la falaise, jusqu'aux pierres et aux broussailles. « Seigneur, Seigneur !» vociféra Ursule, affolée. Elle se pencha sur l'abîme, avec colère, gémit, pria, supplia, désespérée. Impuissante, elle semblait, dans son égarement, préservée du vertige. Elle se déchirait le visage avec ses ongles, pleurait, repoussait la dame qui cherchait à lui dire des choses de raison et d'espérance. Elle s'étendit sur le bord de l'abîme, essaya de glisser à son tour, de descendre là-bas jusqu'au petit qu'on ne voyait plus au sein des plantes touffues. Mais l'instinct de la conservation la ressaisit. Elle eut peur, remonta sur la route. Apercevant là-bas Jean-Marie, qui courait vers le chemin des ormes, elle comprit qu'il allait, sur l'ordre de sa mère, demander du secours. Alors, à genoux sur la terre, les bras en croix, elle leva vers le ciel son visage enflammé par la douleur et, sans se lasser, répéta ses prières. Hélène lui disait toujours des consolations, des choses de sagesse et de bonté qui l'émouvaient aussi. Et, bouleversée au fond de l'âme, elle l'embrassait pour l'empêcher de commettre contre elle-même un acte irréparable de démence. Enfin, des valets accoururent, effarés, clamant ensemble « Oh, cet abîme des 13 vents ! Il lui fallait tous les 4 ou 5 ans une victime !» Ursule se jeta à leur rencontre. « Je vous attends ! Sauvez mon petit ! Je viens avec vous là-bas !» Mais impossible, il faut prendre l'abîme par le vallon d'Ambialé. Laissez-nous faire.
Non, non, je veux vous suivre.
Vous nous ferez tout manquer, on ne connaît pas bien ces broussailles.
Oh, emportez Riri, madame, que celui-là au moins nous reste.
Haletante, elle baisa au front, sur les joues, partout, l'enfant qui était à elle davantage et l'arrachait des bras de sa mère. Puis, brusquement, docile aux recommandations des valets et d'Hélène, elle l'emporta, descendit avec frénésie la route. Hélène la rejoignit non sans peine.
« Oh, madame, ne m'abandonnez pas !»«
Jamais plus !» La ferme des Michel fut alors une maison grande, sacrée. Ursule ne cessait de pleurer, de serrer contre son cœur Jean-Marie. La sinistre nouvelle s'était répercutée par le plateau. Michel et son aîné rentrèrent. Et ce furent, parmi les étreintes désolées, des malédictions sur ce pays de Lozère, des reproches réciproques et des gémissements tels qu'en profèrent les animaux. Hélène pleurait aussi, n'osant plus parler d'espérance. Nul ne songeait qu'elle pût être la cause, au moins indirecte, de la mort de Florent. Peu à peu, les Michel éprouvèrent, à la voir au milieu d'eux, dans leur foyer, associé à leur misère, un sentiment de tendresse. Ce soir, dans les fermes, dans les hameaux, on se coucha plus tard que de coutume. Les enfants prièrent pour la victime innocente qui avait payé de son sang, pour ses parents et pour ses maîtres, le droit de patrie en Lozère. Dans la ferme d'Ambialé, le carcel brûla toute la nuit. Florent était couché, une croix de branchette entre ses mains, sur un matelas que portaient des planches, à même le sol. Au dehors, le vent grondait à travers la pinède, avec une rumeur d'orgue lointaine. Le lendemain, après-midi, arrivèrent par les chemins et les sentiers tous les paysans du plateau, au moins un représentant de chaque maison, tous jaloux de prouver aux habitants d'Ambialé leur coutume de concorde fraternelle. Caminade, en sa cape de veuve, arriva une des premières avec Césarine, qui était toujours fraîche, le front rose sous un bonnet de deuil. N'étant ni l'une ni l'autre, revenue assez aux usages du monde pour en suivre les inspirations, Elle craignait que la férocité de l'abîme ne fît horreur aux Michel et ne les éloignât de leur montagne. Caminade se rappelait aussi la mort tragique de son homme et elle restait dans un coin, assise, étonnée chaque fois qu'un arrivant nouveau, après avoir serré la main des Michel, lui serrait également la sienne. Les Gobain, debout derrière leur fermier, avaient un maintien d'affection contristé et grave. Jean-Marie ne sortait pas du giron de sa mère, qui le caressait lorsqu'il pleurait trop fort. Gonzague, courageux, un peu par présomption de son âge, entretenait le feu en soufflant par le long tuyau sur les braises. Le prêtre parut, orné de ses plus beaux habits, entre ses deux enfants de cœur. On partit, le cercueil posé dans la carriole que Florent, pour jouer, pour faire l'homme fort, avait à maintes reprises, ces derniers temps, essayé avec Jean-Marie de traîner sur la route. Dans le silence du plateau, sous le ciel paisible, ce deuil avait toute sa solennité émouvante. Une fois que le cortège fut parvenu sur le plateau, à l'endroit même d'où Florent était tombé, on entendit sonner les cloches légères du Besson, qui sonne pareillement pour les pauvres et pour les riches. Le hameau était encore loin. Dans une poussière de troupeaux, le peuple se mettait progressivement en désordre, blouse raide, cape noire, manteau flottant de bure. Au bord de l'abîme, Ursule frissonna, serrant contre elle Jean-Marie qui sanglotait. Aurait-elle jamais la force de remonter seule à cette chapelle ? Hélène essayait d'échapper à l'obsession de l'abîme. Mais, voyant auprès d'elle Ursule et son petit s'écarter ensemble, elle songea que, peut-être, Florent avait préservé de la mort Jean-Marie et elle eut au fond de son être une émotion de félicité sauvage en même temps que d'humilité devant ce sacrifice. Et ses mains qui tenaient le missel tremblèrent. Un flot de sang inonda son visage. L'église du hameau se remplit aussi vite qu'à la grand-messe le dimanche. Au cimetière, qui était aux trois quarts envahi d'herbe, Ursule poussa de nouveau des clameurs de colère si ardentes qu'Hélène, en l'appuyant sur sa poitrine, sans crainte de déranger sa robe, dut l'emmener. Gobert avait pris à son bras Michel tout concerné.
pendant que les paysans se dispersaient par les chemins et les sentiers, on retourna à Ambialé par la traverse de la Cordille qui, après avoir franchi le ruisseau du Fournel, dans le vallon naguère maudit, grimpe le coteau des pâturages à droite de la Pinède. On ne parlait pas. Seulement, de retour à la ferme, Gobert dit, avec son autorité de magistrat, « La mort, en nous éprouvant ensemble, a voulu nous faire communier par le cœur. » « Ah !» s'écria Hélène, « je n'oublierai jamais !» Ursule gardait entre ses genoux l'enfant qui semblait comprendre que lui seul pouvait la consoler. Les Gobert s'en allèrent sans oser le reprendre. Caminade, en l'absence de ses compagnes du hameau, avait recouvré sa sérénité ayant connu tant de misère. C'est elle qui, pour tous, apprêta le lait caillé, le pain, le fromage. Césarine et Romain avaient, sous l'ombre de la mort, le sentiment de se fiancer une seconde fois. À cause des brumes qui flottaient sur le vallon, les femmes de la Cordille pressèrent leur départ. Alors, les Michel mangèrent à peine. Et bien là, épuisés par la douleur comme la terre par la pioche, ils se couchèrent. Jean-Marie fut placé dans le lit de Florent, où il dormit comme un dieu auprès de sa maman.